Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. Merci d'être là. Elle permet de rédiger, de traduire et même de converser, de créer ou de modifier des images, de reproduire des voix. Elle est présente dans le monde du travail, dans la recherche, sur les médias sociaux et dans nos vies personnelles. Elle est partout. L'intelligence artificielle, elle suscite de la curiosité, de l'engouement, des inquiétudes, elle pose questions. On essaie de nommer les enjeux et d'offrir des pistes de discernement. Pour y voir plus clair, particulièrement dans l'optique des communications sociales par l'Église, et quels sont les défis de la communication sociale dans ce contexte-là, nous avons un invité, Serge Casselet. Il est bibliste, historien, journaliste et consultant en communication. La personne idéale pour aborder ces sujets. Bienvenue, Serge.
Merci, Renaud, de m'inviter.
Alors, effectivement, l'Église s'intéresse de plus en plus, bien sûr, comme bien d'autres institutions aussi, et, à l'intelligence artificielle, mais elle porte une attention très particulière. Et vous avez l'occasion un peu de regarder un peu la pensée de l'Église sur ce sujet, Serge Casselet.
Oui. Alors, ce qu'on remarque, c'est que autant le pape François que le pape Léon XIV s'intéresse énormément à l'intelligence artificielle. Déjà en 2024, lors des 58e Journée mondiale des communications sociales, le pape François avait livré un message qui s'intitule « Intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine ». Ce qu'il disait en gros, c'est de veiller à ne pas confondre le développement technologique et la quête spirituelle, ni substituer l'intelligence artificielle à la profondeur de l'intériorité humaine. Puis, il expliquait entre autres que la technologie, c'est un instrument et non pas une fin en soi. Un chatbot ou un robot conversationnel, hein, on entend ça, ces termes-là au quotidien maintenant, où on les lit un peu partout dans nos communications sur les réseaux sociaux ou dans des articles. Ben, un chatbot, un robot conversationnel, ce n'est pas un ami, ni un conseiller, ni un confident, parce que ses réponses, les réponses aux questions qu'on lui pose, sont composées à partir d'algorithmes qui sont destinés à plaire et à répondre, à bien nous répondre. Alors, déjà, on disait en 2024, en janvier, le pape François s'est lancé. En 2025, il y a eu des jubilés du monde de la communication, en janvier encore. Et encore une fois, l'intelligence artificielle a été au cœur des conversations. J'en dis pas plus pour le moment parce que tantôt, on y reviendra. Hein? En janvier 2025, le dicastère pour la doctrine de la foi et le dicastère pour la culture et l'éducation ont publié un document qui s'intitulait « Antiqua et Nova », note sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc, on voit, c'est au cœur des préoccupations de l'Église. On publie un document, on compose quelque chose, puis on pose la question dans ça. Hein, on aborde l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sous des angles anthropologiques, pour bien distinguer que l'intelligence humaine, ben, c'est une constituante de la personne qui est créée selon l'image et à la ressemblance de Dieu, selon la Genèse. Si on passe au pape Léon XIV, dès le début de son pontificat au printemps 2025, il va soutenir que l'intelligence artificielle est une révolution plus grande que la révolution industrielle et l'automatisation à la fin du 19e siècle. Et même, il ira jusqu'à dire que le choix de son nom, Léon, c'est en écho à Léon XIII, qui était le pape durant la révolution industrielle. Si on poursuit avec le pontificat du pape Léon XIV, ben régulièrement, il va nous parler d'intelligence artificielle. En décembre encore, il s'adressait aux jeunes et il soulevait diverses questions, des questions de sens notamment, sur l'intelligence artificielle. Et là, lors des Journées mondiales des communications sociales, en 2026, ben le pape Léon publie un discours qui préservait les voix et les visages humains. une évidence qui est exprimée par le pape dans ça, c'est que les algorithmes sont conçus pour maximiser l'engagement sur les réseaux sociaux et pour récompenser des émotions rapides. Hein. Donc, on atténue tout ce qui est expression de communication humaine, on atténue tout ce qui est, je dirais, effort de compréhension, tout ce qui est cheminement à la réflexion. Quand on fait usage de l'intelligence artificielle, puis là, on précise tout de suite, hein, l'intelligence artificielle, ce n'est pas ni bien ni mal. Il y en a, c'est intéressant parce que je lis parfois certains penseurs catholiques, surtout des anglophones aux États-Unis, qui vont comparer l'intelligence artificielle à l'arbre de la connaissance dans la Genèse, hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
C'est pas la même chose, si je comprends bien, là. Si je comprends bien, c'est faut pas relire ça à la lumière de... Mais c'est l'intelligence artificielle existe et c'est plutôt l'usage qu'on en fait que...
Ben voilà, c'est dans le fond de ce qui se dégage des messages de l'Église et des communications de l'Église au sujet de l'intelligence artificielle, ben c'est simplement d'en faire bon usage, de comprendre que c'est une technologie qui peut être très très bonne si on veut classer, si on veut faire de la recherche, si on veut par exemple identifier des sources, monter des bibliographies, c'est très très pratique, mais si on demande à l'intelligence artificielle de faire la recherche pour soi et de nous livrer une réponse, c'est là où il faut remettre en question.
Serge Gosselet, des algorithmes, qu'est-ce que c'est? On entend souvent ce mot-là. C'est difficile de savoir exactement qu'est-ce que c'est. Parce qu'on dit, bon, les algorithmes nous amènent à... Alors, par exemple, si moi je cherche, par exemple, voilà, j'aimerais avoir, je voudrais avoir peut-être, je vais sur certains sites web, j'ai besoin de vérifier si je vais acheter, par exemple, une nouvelle voiture et tout à coup, je m'aperçois que sur mon téléphone, je reçois des publicités de voitures. Est-ce que c'est ça, un algorithme? Un exemple qui est aidant?
Oui, c'est un exemple qui est aidant. Moi, comme je le précise, je ne suis pas informaticien, je suis historien, puis je suis penseur, puis je suis communicateur, mais un algorithme, on peut le comprendre, c'est une série d'instructions et d'opérations que la machine va faire. La machine va procéder ensuite à un classement d'informations, d'instructions, à partir des instructions qu'on lui a données ou à partir d'instructions qu'elle accumule ou d'informations qu'elle accumule sur nous. L'exemple que vous avez donné, Renaud, est très intéressant. Simplement, le système à partir duquel on se parle actuellement, j'ai fait des recherches pour être certain de bien me brancher à partir de mon portable, puis tantôt je prends mon iPhone et hop, j'avais de l'information sur mon iPhone sur Riverside. Pourquoi? Parce que à partir de mon PC, j'ai Facebook sur mon téléphone. Oups, les algorithmes se parlent, les algorithmes ramassent de l'information à mon sujet. Les algorithmes remarquent que j'ai cherché de l'information particulière à ça. Ou une fois c'était particulier. Et ils vont nous proposer des publicités.
En lien avec les recherches.
Exactement, c'est ça. C'est ça. Parfois, c'est simplement une phrase qu'on va écrire sur les réseaux sociaux qui va enclencher le processus d'algorithme et qui va faire en sorte qu'on va recevoir des publicités ou de l'information sur une phrase qu'on a écrite, simplement.
Et même si on cherche sur le pape Léon XIV, après ça, on va recevoir plusieurs informations, nouvelles qui le concernent. Alors oui. Ça, c'est un usage qui est bon. Mais encore là, faut-il discerner?
Oui. Le processus de discernement est important en matière d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, justement, ces algorithmes-là vont aller chercher de l'information et vont nous livrer une réponse toute faite. Habituellement, dans un processus de recherche, dans un processus de communication, si je veux, par exemple, communiquer sur un sujet, je veux préparer un atelier sur l'Évangile de Jean, je vais faire un certain nombre de recherches. Je vais lire le texte, je vais consulter des auteurs, des commentateurs, je peux regarder ce que l'Église a dit, je peux regarder ce que tel chercheur à l'université a dit, et à partir de cette information-là, je vais composer un atelier et je vais proposer une bibliographie même aux personnes qui viennent assister à cet atelier-là. Je peux poser la question à l'intelligence artificielle, Donne-moi un atelier, compose-moi un atelier sur le chapitre 12 de l'Évangile de Jean. Il va me sortir un commentaire, il va me sortir un atelier sans me donner de référence. Je donne un exemple très, très précis. Quand je donnais des cours à l'université, j'avais toujours un chapitre dans mes cours, dans certains de mes cours sur Métrite et système symbolique, par exemple. J'avais un chapitre sur Platon, sur le banquet de Platon. Et je posais toujours en examen à mes étudiants une question sur le discours de Diotime, qui est dans le banquet de Platon. Et la question, c'était quel est l'objet de l'amour dans le discours de Diotime, qui est une femme qui rapporte les propos de Socrate. C'est intéressant dans le banquet. Alors, une fois, je pose la question à Copilote, puis je pose la question à ChatGPT. Quel est l'objet de l'amour?
Ce sont des engins d'intelligence
artificielle, c'est ça. Et je pose exactement cette question-là. Quel est l'objet de l'amour dans le discours de Diotime? Je donne aucun autre détail pour voir qu'est-ce qu'il allait en sortir. Ben, l'intelligence artificielle savait que le discours de Diotime s'était inclus dans le banquet de Platon, que c'est Socrate qui rapportait les propos de Diotime. Puis là, ils m'ont sorti les deux en parallèle, chacune réponse. Puis j'avais dit entre 1500 et 1800 mots. Puis pouf, c'était pile. C'était bluffant jusqu'à un certain point. Mais il n'y avait aucune référence, il n'y avait absolument rien.
Est-ce que ça veut dire, Serge, que donc les engins d'intelligence artificielle que vous avez nommés pouvaient aller chercher à gauche et à droite toutes sortes d'informations, les mélanger sans discernement?
Exactement. On allait chercher de l'information qui était déjà sur Internet. Ça pouvait être de l'information à partir des lecteurs, monsieur et madame tout le monde qui lisait le banquet, ça peut être des chercheurs universitaires, des articles académiques, ça peut être des opinions sur le banquet de Platon, ça peut être n'importe quoi. L'intelligence artificielle ne discerne pas. Elle va chercher de l'information, elle compose un texte et elle nous livre cette information-là. Un autre exemple qui est absolument intéressant, un article récent du Journal de Montréal, la même information circulait dans d'autres journaux aussi en Europe, je l'ai trouvé dans le journal Le Monde notamment, on disait que 21% des vidéos qui se trouvent actuellement sur YouTube sont des vidéos qui ont été générées de toutes pièces, inventées de toutes pièces et générées par l'intelligence artificielle. Je vois circuler sur les pages Facebook ou sur les TikTok de personnes que je connais, par exemple, une vidéo récemment qui circule sur le livre d'Enoch, qui est un livre qui n'est pas canonique, qui n'est pas inclus dans la Bible, mais qu'on retrouve
dans
l'Éthiopie, ce sont qu'on classe dans les livres apocryphes, qui est un du genre littéraire midrash. Alors, mais c'est vraiment du n'importe quoi dans ce vidéo-là. C'est un ramassis d'opinions parce que, étant donné que c'est un livre apocryphe, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament chercheurs, qui écrivent des articles incroyables sur le livre d'Enoch en nous expliquant en long et en large où, quand et comment l'Église l'aurait supposément retiré du canon. Alors, ces vidéos-là qui sont 100% générées par l'intelligence artificielle nous parle avec autorité et nous livre de la soi-disant information sur ce livre-là, mais qui est entièrement fausse. Puis, moi, qui est historien, j'ai fait une maîtrise à la Faculté de théologie de l'Université Laval, justement avec un groupe qui travaillait sur les livres apocryphes. J'écoute ça, puis je me dis, mais ça n'a aucun sens de lancer ça comme ça. Puis là, on a une intelligence artificielle où on a comme un soi-disant auteur ou un soi-disant spécialiste qui parle avec autorité, qui dit à peu près n'importe quoi. Mais c'est un personnage qui n'existe pas, le monsieur en question qui parle dans la vidéo. La voix est une voix générée par l'intelligence artificielle. Et l'information qui est lancée là, c'est de l'information qui a été grappillée n'importe où, de toutes les manières.
La question d'aujourd'hui, nous recevons Serge Casselet et nous parlons justement de communication sociale, d'intelligence artificielle. Et on se pose la question, donc, dans ce contexte-là, où nous avons justement cette intelligence artificielle qui est partout dans nos vies et aussi dans les informations qu'on peut avoir sur la foi. Alors, communiquer la foi, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir partager des connaissances sur le Christ, sur Dieu, particulièrement dans une optique de vérité aussi? La vérité, c'est très important, et la tradition de l'Église, c'est très important. Donc, comment on communique la foi dans ce contexte-là? Quels sont les enjeux que vous voyez, Serge Casselet?
Ben, il y a plusieurs enjeux, mais pour communiquer efficacement, on peut revenir encore un peu à nos journées mondiales des communications sociales. Ben, le pape Léon a évoqué trois grands piliers de la communication, justement dans un contexte, notre contexte contemporain, où nous cohabitons avec l'intelligence artificielle. Donc, ces trois piliers sont la responsabilité, la coopération et l'éducation. Ça se résume en gros à la transparence, avoir le courage d'aborder les questions, avoir le courage d'entreprendre aussi une démarche de connaissance, une démarche de communication. C'est d'interpeller aussi les législateurs, l'industrie, les éducateurs, les communautés. C'est de veiller à maintenir ou à respecter la dignité humaine dans nos communications. Et c'est là, je dirais, là, quand on fait une recension des divers documents ou des diverses déclarations ou des diverses communications que l'Église a fait au sujet de l'intelligence artificielle, ben c'est de vraiment distinguer l'esprit humain, puis distinguer l'intelligence artificielle, au fond, qui est une série d'algorithmes, hein, comme on disait tantôt, qui ramassent d'informations sans nécessairement discerner. Je dirais une bonne communication dans les milieux de foi offre un espace de réflexion et de quête de sens. On est conscient qu'actuellement, avec, je dirais, tout le bruit, toute l'information qui circule, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, les vidéos qui s'enchaînent souvent même sur nos pages de réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses dans ça qui sont anxiogènes. Et de plus en plus, le public rejette ces informations-là qui sont souvent non vérifiées ou qui enchaînent en boucle. Je prends comme exemple récemment tout ce qui se passe à Minneapolis, par exemple. On parcourt nos réseaux sociaux et c'est plein d'informations sur ce qui se passe à Minneapolis, des vidéos qui tournent en boucle, des commentateurs, des influenceurs qui vont commenter, qui vont faire jouer au ralenti une vidéo pour montrer une séquence. On regarde ça, puis on est angoissé, on est choqué, on a des sentiments de toutes sortes qui surgissent, puis on se dit « Hey, je veux autre chose ».
Est-ce que, justement, ça ouvre la porte peut-être un aspect aussi, c'est avec les modifications que peut faire l'intelligence artificielle d'un fait ou de faits qui sont reportés, est-ce que c'est pas pour aller chercher des émotions à fleur de peau? Est-ce qu'il y a cet aspect-là qui peut être un peu dangereux ou en tout cas à prendre conscience que d'avoir ce qu'on appelle des likes, là, c'est des commentaires, des j'aime ou je n'aime pas, ça va chercher des réactions immédiates et de l'émotion qui peut-être aurait besoin d'avoir un peu d'avoir une distance? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire attention?
C'est extrêmement important ce que vous soulignez là, Renaud, parce que il y a même des cas récents, hein, même des grandes chaînes d'information comme les grands réseaux comme la BBC a été surpris à modifier des images, à modifier des extraits de discours au moyen de l'intelligence artificielle. Puis c'est un phénomène, il faut en être conscient, à ce qu'on appelle les hyper-trucages ou en langage commun le deepfake, des fausses images, des fausses photos ou des images qui sont vraies mais qui sont retouchées. Puis c'est extrêmement facile à faire, c'est à la portée de tout le monde.
Alors, vous dites donc une communication efficace en milieu de foi, d'offrir un espace de réflexion et de quête de sens.
Oui.
Et il y a aussi d'autres aspects que vous voulez mettre en évidence?
Oui, alors une communication efficace en milieu de foi va proposer une vision. Hein? Une vision de la dignité humaine, une vision de l'amour, une vision qui va nous faire prendre conscience que nous sommes des êtres incarnés qui avons soif de transcendance. Puis là, on précise, on est dans un milieu de communication de foi. Donc, une vision. Une communication de foi aussi se doit d'offrir de l'espoir. Donc, si on revient au jubilé du monde de la communication, celui de 2025, un des messages qu'a voulu transmettre le préfet du Dicastère pour la communication du Saint-Siège, hein, c'est Paolo Ruffini, qui est aussi un ancien PDG d'une chaîne de télévision publique en Italie. Alors, un des messages qu'il martelait, c'est que, puis on le retrouve dans plusieurs articles, c'est que l'espérance n'est pas un algorithme. Hein. L'espérance, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, c'est le désir et l'attente du royaume. Hein, puis on le proclame dans la prière du Notre Père. Hein, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, on offre de l'espoir. Puis l'espoir, c'est pas quelque chose qui se construit à partir d'algorithmes. L'algorithme va plutôt être là pour venir nous flatter, pour venir nous proposer hein, des choses qu'on s'attend, des choses qu'on attend, des choses qu'on aime, une publicité bien ciblée. Hein?
Alors... le pape François avait d'ailleurs invité aux communicateurs, pas seulement dans l'Église, de communiquer l'espérance.
Hein, exactement.
Il avait mentionné
oui.
ça. Et il y a aussi d'autres aspects dans la communication efficace en milieu de foi que vous voulez mettre en évidence.
Oui, alors c'est la rigueur, les sources vérifiées et vérifiables. Puis on revient à ce que vous avez dit tantôt, hein, les hypertrucages, les images truquées, les deepfakes, les faux vidéos ou encore tout ce phénomène-là là, que moi j'appelle la crise des fausses nouvelles ou les fake news, comme on entend souvent, c'est des nouvelles qui sont créées de toutes pièces ou qui je dirais, c'est des influenceurs qui peuvent être n'importe où, qui vont lancer une rumeur, puis cette rumeur-là, elle est reprise par l'intelligence artificielle, puis elle est présentée comme étant une nouvelle. C'est intéressant cependant parce que moi, je le remarque sur le réseau X, hein, moi, je suis sur tous les réseaux étant communicateur, je veux voir ce qui se passe puis comment ça fonctionne partout. Alors, souvent, sur X, qui est l'ancien Twitter, les gens vont mettre une photo ou vont lancer une information, puis là, il y a des gens qui posent la question, Grok, est-ce que c'est vrai? Grok, est-ce que tu connais la source? Grok, c'est l'intelligence artificielle qui est associée au réseau X. Puis très souvent, Grok va dire, puis encore là récemment, justement avec les événements de Minneapolis, il y a une vidéo qui circulait, puis les gens disaient, Grok, est-ce que c'est vrai? Ben Grok répondait, oui, cette vidéo-là est vraie parce que telle chaîne ou tel réseau l'a publié, l'a diffusé, mais la version que vous avez ici en est une qui a été retouchée par l'intelligence artificielle parce qu'on voit tel élément, telle chose. On voit une arme plutôt que dans la vidéo originale, il y avait un téléphone, puis là, on voit une arme à la place dans les mains d'une des personnes qui est impliquée. Alors, Grok le mentionne, la vidéo est authentique, mais retouchée.
Alors, l'intelligence artificielle peut elle-même se faire passer pour un expert, si je comprends.
Ben absolument.
Dans un cas comme ça, il devient l'expert.
Oui,
Et il y a un autre élément que vous voulez mentionner aussi, un lieu de coopération et de relation.
Oui, parce que la communication, en fait, c'est une relation. On ne peut pas communiquer seul pour soi-même. Hein. La communication, elle est destinée à des auditeurs. On a un interlocuteur ou un rédacteur. On a des auditeurs et des lecteurs. Et c'est pas quelque chose qui est unidimensionnel. C'est pas moi qui parle pour me parler à moi-même ou pour montrer aux autres que je suis capable de parler. Une bonne communication en milieu de foi, ben c'est bidirectionnel, c'est une relation, c'est des échanges, c'est un partage d'informations, c'est un partage d'expériences. On se répond, on commente. Puis là, j'insiste sur cette question-là du commentaire parce que c'est très, très important. Dans la tradition pédagogique et dans la tradition scolaire chrétienne, on ne fait pas que lire des textes, on les commente aussi. Puis c'est l'historien Pierre Hadot qui avait souligné ça dans un de ses livres, hein, « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Il disait « Le commentaire de texte, c'est un des piliers de la formation en Occident. Qu'est-ce que c'est commenter ?» Ben, c'est entrer en relation, même si c'est un support qui est écrit. On entre en relation, puis on mâche les paroles, on les remet sur papier, on les commente. On peut les commenter oralement aussi. Puis on les commente aussi, c'est pour être lu par quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre ensuite va prendre ça et va commenter à son tour. Tout ça pour revenir à notre point 1, hein, c'est ça la communication finalement en milieu de foi, ben, c'est d'offrir cet espace-là de réflexion, de quête de sens, mais avec toute la dimension relationnelle.
Eh bien, merci beaucoup Serge Kesslet de nous rappeler justement ces trois piliers de la communication efficace en milieu de foi qui concernent pas juste les diocèses, pas juste le Vatican, les paroisses, les influenceurs catholiques et d'église, la responsabilité, la coopération, l'éducation. Serge Kesslet, ça a été extrêmement intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous à Question d'aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci d'avoir été à l'écoute de Questions d'aujourd'hui. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.